Espace, horizon inaccessible. Une émission présentée par Jean-Jacques Ibos chaque mois sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace. Aujourd'hui, épisode numéro 21. Lors des dernières émissions, nous avons vu quelles étaient les retombées au quotidien des technologies spatiales, mais je pense qu'il y en a bien d'autres.
Oui, et nous allons continuer à les découvrir. L'accès à Internet. Plusieurs acteurs sont sur ce créneau. Boeing, le géant de Seattle, avait déposé en 2016 une demande auprès de la Commission fédérale américaine de télécommunications pour l'installation de 3000 satellites en orbite basse. Ce projet a été mis en sommeil en 2018. Planet. Planet est le leader des mini-satellites. Il en avait plus de 200 en orbite fin 2021, avec des résolutions allant de 3,70 m à 50 cm. SpaceX. En mai 2018, SpaceX a eu l'accord des autorités américaines pour placer 4 425 satellites à haut débit pour donner accès au monde entier à Internet. Chiffre passé fin 2018 à 11 943, placé entre 335 et 346 km d'altitude, là où la connexion est plus rapide qu'avec les satellites placés sur une orbite géostationnaire à 36 000 km. Mais après le lancement de la première série des Starlink, la communauté scientifique a protesté contre la pollution lumineuse engendrée par ces satellites, dont la surface métallique réfléchissante perturbe les signaux radio des instruments de radioastronomie. Problème qui va s'aggraver, SpaceX ayant en octobre 2019 déposé une demande pour un total de 41 933 satellites. Une photo d'une traînée de satellites a été publiée par les astronomes et le député français Cédric Villani a adressé au gouvernement une alerte sur ce problème majeur pour l'astronomie. SpaceX a tenté de corriger ce problème en équipant la série suivante d'une surface noire, mais sans résultat. Autre solution mise en place à partir de la 8e série, un pare-soleil déployable a été installé en test sur un des satellites lancés le 4 juin 2020. Au 6 janvier 2022, 1988 satellites Starlink avaient été lancés depuis mai 2019 en 35 missions. Mais déjà, 247 d'entre eux sont hors service après seulement 2 ans d'utilisation. Et lors du premier lancement de 2022, les 40 satellites ont été freinés par de violents vents solaires lors de leur déploiement en orbite et sont retombés dans l'atmosphère où ils ont brûlé. Les autorités de régulation du trafic spatial craignent que ces milliers de satellites ne posent de sérieux problèmes de gestion. Déjà, en septembre 2019, un satellite de l'ESA avait été déplacé pour éviter un exemplaire de Starlink, le risque de collision étant majeur. Starlink, de son côté, avait refusé de déplacer le sien. Autre acteur majeur, OneWeb. L'Américain Greg Weiler a créé en 2014 le réseau OneWeb, dont le but est de fournir l'accès Internet à toute la planète avec l'installation de 750 mini-satellites, 648 satellites opérationnels et 62 de remplacement, positionnés à 1200 km en orbite basse polaire. Chaque satellite pèse environ 150 kg et coûte 1 million de dollars, soit 50 à 200 fois moins qu'un satellite de télécommunication classique. Les 6 satellites prototypes de la constellation ont été lancés le 27 février 2019 par le lanceur Soyuz Frega depuis Kourou. Ils ont permis de connecter des écoles dans 6 pays différents. Les suivants l'ont été depuis Baïkonour, puis de Vostochny en Sibérie. Il y en a eu 280 de lancés en 2021. Et quelques satellites devraient être aussi lancés par Virgin Orbits. Tous les satellites sont équipés d'un système permettant leur désorbitage pour ne pas encombrer l'orbite dans les 5 ans suivant la déclaration de non-opérabilité du satellite. Ils sont équipés aussi d'un dispositif de capture. Mais le 27 mars 2020, OneWeb avait été placé sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites car l'un de ses principaux investisseurs, la banque japonaise SoftBank, avait refusé une rallonge significative pour couvrir les 1,7 million de dollars de dettes de la société. Partenaire de OneWeb, avec qui elle a créé une usine pour produire la constellation de satellites prévue au programme, Airbus Defence and Space était particulièrement concerné par cette possible faillite. De même qu'Ariane Espace, principal fournisseur des lancements, chez qui OneWeb aurait pu laisser une ardoise de 230 millions de dollars. Mais finalement, OneWeb a été reprise en juillet 2020 à égalité par le gouvernement britannique et le groupe indien Bharti pour 500 millions de dollars chacun. Eutelsat est elle aussi entrée au capital de OneWeb à hauteur de 24% en mai 2021 pour 550 millions. Puis les Indiens ont rajouté 500 millions au pot après que OneWeb eut mis sur orbite un autre lot de satellites. À fin 2021, 394 satellites étaient opérationnels sur les 648 prévus. La concurrence est déjà rude dans ce domaine nouveau. Les annonces de SpaceX et de OneWeb ont poussé les créateurs d'une entreprise potentiellement concurrente, Leosat, à se retirer du marché, privé du soutien des investisseurs. Y aura-t-il un quasi-duopole exclusif dans l'Internet spatial? Non, car Amazon, société de Jeff Bezos, a lancé son projet Kuiper pour 3226 satellites en orbite basse qui pourraient être lancés par ses propres fusées Blue Origin. L'opérateur canadien Telesat a passé à Thales Alenia Space une commande de 288 satellites pour son réseau Lightspeed qui seront placés sur des orbites basses de 1015 et 1325 km d'altitude par les fusées Blue Origin et ce à partir de fin 2022. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a lancé le projet Loon pour placer 11 000 ballons dans la stratosphère donnant accès à Internet à toute la planète. Et les Chinois, avec le projet Guo Wang, mettront 12 992 satellites en orbite, mais à une date non déterminée. Autre domaine de l'Internet, l'Internet à bord des avions. Les passagers demandant de rester connectés pendant les vols, même de courte durée, Airbus et Boeing proposent aux compagnies d'équiper leurs avions de systèmes permettant de recevoir Internet en vol. Et deux satellites, SES-17, lancé en octobre 2021 par une Ariane 5, et Connect VHTS, qui sera lancé en 2022, assureront ce service estimé à plusieurs milliards de dollars. Le satellite Connect permet aussi la connexion Internet en Afrique subsaharienne. La société Eclipse et l'Australien IAI proposent des solutions clés en main pour assurer la communication Internet sol dans les domaines militaires et de l'aviation d'affaires pour les avions et les hélicoptères. Autre domaine, la collecte de données. Dans le domaine aérien, ce sont des millions d'informations qui sont captées par les avions en vol, retransmises en direct dans les centres de maintenance, permettant d'anticiper les besoins d'entretien au sol lors de pannes avérées ou de faire bien mieux grâce à la maintenance prédictive qui anticipe les anomalies à venir. Avec la multiplication des objets connectés, les bases de données, ce que l'on appelle le big data, seront alimentées par des bornes relais qui enverront leurs montagnes de données par satellite à des ordinateurs chargés d'extraire de ces milliards d'informations ce que les sociétés en attendront. Une société du New Space, la toulousaine Kineis, dont 7 satellites sont déjà en orbite, va lancer une constellation de 25 satellites entre avril et septembre 2023 avec le lanceur Electron de Rocket Lab à partir du Stationport de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande. Ils vont compléter le système Argos dont les balises localisent les navires ou des animaux équipés de ces balises dont les scientifiques étudient les déplacements. Autre domaine est très important pour le futur, la surveillance des géocroiseurs. C'est un domaine particulièrement intéressant. Ces masses rocheuses qui circulent autour de notre Soleil et dont la taille atteint pour certains le kilomètre de diamètre viennent à intervalles réguliers croiser la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Il y en aurait 700 000 à gravité entre Mars et Jupiter. Leur suivi fait l'objet d'un vaste programme de la NASA appelé Space Guard Survey qui calcule en permanence les trajectoires des géocroiseurs donnant les dates auxquelles ils se rapprochent de la Terre et à quelle distance. Deux autres programmes américains, Pan-STARRS et Catalina Sky Survey, ont en charge de détecter tout objet de taille supérieure à 140 mètres, mais seul un tiers de ces objets a été répertorié. Aussi, en 2023, le futur LSST américain devrait augmenter ce pourcentage, ainsi que le télescope Fly High de l'ESA, dont l'objectif est de prévoir d'éventuelles zones d'impact quelques semaines avant l'événement pour organiser les mesures à prendre. Un astéroïde de 4,4 km de largeur, Florence, nous a frôlés à 7 millions de kilomètres le 1er septembre 2017. C'est le plus gros astéroïde enregistré depuis le début de ses observations en 1890. Un autre, Oumuamua, éclaireur du passé qui nous contacte en langage hawaïen, sorte de cigare de 40 mètres de largeur et 400 mètres de long, détecté le 19 octobre 2017 par l'observatoire d'Hawaï, provenait de la constellation de la Lyre et n'a fait qu'un passage rapide à 140 000 km/h dans notre système solaire et le quitta fin 2019, poursuivant sa route vers la constellation de Pégase. Il a pu être analysé par les télescopes pendant 10 jours. Et après analyse fine de sa trajectoire, les astronomes ont découvert qu'Oumuamua était une comète avec une périodicité de passage très élevée. Le 16 mai 2018, l'astéroïde 2010 WC9 est passé à 200 000 km de la Terre, à mi-chemin entre la Terre et la Lune. D'une taille comprise entre 60 et 120 mètres, sa chute sur Terre aurait provoqué une catastrophe bien plus importante que la chute de la comète de Chelyabinsk en Russie, qui ne dépassait pas 20 mètres et qui, en se désintégrant dans l'atmosphère en 2013, a fait voler en éclats des milliers de vitres, blessant 1500 personnes et rasant une forêt dans une zone de 20 km de rayon. Un autre astéroïde menace la Terre, 99 942 Apophis. Il devrait passer à 31 000 km de la Terre, moins d'un dixième de la distance Terre-Lune, en avril 2029, puis en avril 2036, et aussi en 2068, avec le risque de se rapprocher de la Terre à chaque passage. De 340 mètres de diamètre et 27 millions de tonnes, il dégagerait en cas de collision une énergie équivalente à 80 000 fois la bombe d'Hiroshima. Afin de prévenir l'impact d'un astéroïde sur la Terre, plusieurs projets ont vu le jour. Un programme de destruction ou de déviation de leur trajectoire est à l'étude depuis des années. Le film Armageddon raconte l'histoire de la destruction d'un astéroïde menaçant la Terre. Pour mémoire, c'est la chute de ces cailloux célestes, il y a 65 millions d'années, dans la zone appelée aujourd'hui presqu'île Yucatan, qui a provoqué la fin des dinosaures et permis l'émergence d'autres espèces animales dont l'homme est issu. Il est certain qu'un événement de ce type entraînerait la fin de notre civilisation. Le programme le plus avancé est celui de la NASA, DART, qui doit tester une technique de déviation. Cette sonde de 610 kg a été lancée le 24 novembre 2021 et percutera en septembre 2022 la lune Dimorphos de l'astéroïde Didymos, située à 11 millions de kilomètres de la Terre et mesurant 160 mètres de large, et cet impact se fera à 6,6 km par seconde, soit 23 700 km/h. L'impact devrait la dévier de sa trajectoire de 1%. L'impact devait être observé par la mission européenne AIM, Asteroid Impact Mission, et la sonde euro-américaine AIDA, Asteroid Impact and Deflection Assessment. Mais à cause de son coût, la mission AIM a été remplacée par une autre sonde européenne, ERA, qui utilisera la déviation induite par cet impact en 2024. Autre idée, peindre l'astéroïde, ce qui aurait pour conséquence de modifier la pression exercée par les rayons solaires sur sa surface et ainsi le faire dévier de sa trajectoire. Projet qui pourrait être mis en œuvre pour le passage de l'astéroïde Bennu ou Bennu, petit caillou de 500 mètres de diamètre voguant à 100 000 km/h, pesant 3,2 milliards de tonnes, qui croiserait la Terre en 2135 avec un risque de collision entre 2175 et 2199. Cet astéroïde est la cible de la sonde Osiris-Rex, lancée en 2016, qui a rejoint Bennu en août 2018, à 300 millions de kilomètres de la Terre, et s'y est mise en orbite le 3 décembre 2018 en envoyant des photos. Un bras robotisé a prélevé de la poussière à la surface de Bennu en faisant un touch and go, le 20 octobre 2020, il les ramènera sur Terre vers 2023. Pendant un moment, la NASA a craint que le couvercle du compartiment de collecte ne puisse pas se fermer du fait de la trop grande quantité de matière prélevée. Mais la cargaison a finalement été transférée en 36 heures dans la capsule de retour, qui pourrait atteindre la masse de 400 grammes. Une autre solution serait d'adjoindre à cet astéroïde une sonde qui jouerait le rôle de tracteur gravitationnel qui, en attirant l'objet, le ferait dévier de sa trajectoire, évitant l'impact avec la Terre. Enfin, la méthode forte, l'explosion d'une bombe nucléaire sur l'astéroïde qui le pulvériserait et le ferait dévier de sa trajectoire. Méthode employée dans le film Armageddon.
C'était Espace Horizon Inaccessible, numéro 21. Une émission présentée chaque mois par Jean-Jacques Ibos sur un aspect de la conquête de l'air et de l'espace.